Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve après cette émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Gonzague Espinoza d'Assonneville, président de la société de Borda. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, merci. Vous aussi, ça va ?
Très bien. Voilà, on est content de vous recevoir. On va passer une heure ensemble, on va découvrir notre invité, la société de Borda. Je dirais que c'est un phare qui éclaire notre territoire depuis 150 ans.
Tout à fait.
Et c'est quand même... Vous êtes certainement l'entité la plus ancienne que je reçois à cette émission, à ce jour, certainement.
Je vous remercie.
Pas vous, je ne parle pas de vous, bien
oui,
sûr.
Oui, bien sûr.
Voilà, on va d'abord écouter le Flash Info national et international et on retrouve ensuite notre invité pour la première partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec notre invité, Gonzague Espinoza d'Assonneville, donc président de la société de Borda. Alors, on va bien entendu expliquer un petit peu la société de Borda pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a une histoire, vraiment, il y a vraiment de la matière. Mais on va commencer par cuisiner un petit peu notre invité, parce que c'est toujours très intéressant de savoir qui sont les gens, parce que ça, c'est important, les gens, ça nous intéresse, les gens. Et d'avoir une petite idée de votre trajectoire qui vous a mené ce jour à ce micro, si vous voulez bien vous prêter à cet exercice.
Oui, bien sûr, je suis né il y a presque une quarantaine d'années à Mont-de-Marsan. J'ai fait mes études d'histoire à Pau, puis à Avignon, où j'ai décroché mon doctorat d'histoire sur un personnage de landais, un général Lamarque de Saint-Sevé, lequel Victor Hugo en parle donc dans Les Misérables, sur ses funérailles sanglantes. Puis après, j'ai bifurqué vers le monde de l'enseignement, où je suis actuellement enseignant à Bordeaux dans deux écoles privées sous contrat, qui est HEIP, l'école des hautes études internationales et politiques, grosso modo c'est Sciences Po, et l'ISCOM, l'Institut supérieur de la communication et de la publicité, donc dans les deux cas, ce sont une école d'enseignement supérieur, où j'enseigne en ce qu'on appelle en bachelor, dans l'université ce serait en licence, et en master. Et à côté de cela, je mène une carrière d'historien du 19e siècle, précisément du Premier Empire, mais aussi de l'Amérique du Sud à la même époque, et aussi également les Landes, qui est aussi mon département natal. Et de fil en aiguille, je suis arrivé il y a presque 6 ans à la présidence de la société de Borda, donc j'ai eu le plaisir donc de présider encore aujourd'hui. Je suis soumis à l'élection l'année prochaine, on verra ce qu'il en sera.
On verra comment ça se passe l'an prochain. Vous avez pas épousé la carrière d'enseignant-chercheur en université ? Une question comme ça, juste...
Oui, parce qu'au départ, je ne partais pas dans cette optique-là. Mmh. Et puis, la carrière d'enseignant-chercheur en université est, on va dire, compliquée, puisque aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui sont diplômées, comme je le suis. Mmh. Mais ce n'est pas que les diplômes qui permettent d'être recruté, parce que c'est un recrutement. Être maître de conférence, c'est un recrutement avec un recrutement sélectif qui oblige aussi à beaucoup de sacrifices. Bon, je n'ai pas voulu choisir cette voie-là parce que il y a peu d'élus, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est un choix personnel.
D'accord, très bien. En tout cas, vous êtes donc spécialisé dans l'histoire et vous êtes aussi enseignant. Donc la transmission fait aussi partie de votre ADN. Donc là, tout naturellement, mais comment s'est passée cette rencontre avec la société de Borda ? On va en parler, on va dire ce que c'est, mais comment est-ce que vous y êtes entré et pourquoi ? À quelle occasion ? Un choix, un accident ?
Disons que quand j'avais terminé mes études à Pau, il y a eu un laps de temps entre mes études à Pau et Avignon, j'ai commencé à... j'ai fait divers métiers en rapport avec la culture, et puis j'ai voulu quand même reprendre mes études, et j'avais commencé à travailler sur le général Lamarque, sur lequel, j'apprécie beaucoup la période du Premier Empire, et sur lequel j'avais vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait, de moins de sérieux, sachant qu'il y a beaucoup de ces archives étaient encore inexploitées, qui se trouvent essentiellement à Paris. Et Et donc, j'ai commencé cela. Et puis, ce qui m'a attiré vers Studio Bourdin, en fait, c'est ma maman qui, bon, qui me suit depuis tout petit et qui m'a toujours poussé vers l'histoire, vers la culture.
D'accord.
Et c'est elle qui m'en a parlé. Et, et donc, je suis allé sur la pointe des pieds. C'était en 2012 et j'ai été très bien reçu quand j'ai évoqué mes recherches sur le général Lamarque. Et puis de fil en aiguille, j'ai adhéré, j'ai fait mes premières présentations dans le cadre de ces activités. Je suis rentré au conseil d'administration en 2018 et puis depuis 2021, donc je suis président donc, de cette société.
Ouais, très bien, donc vous avez trouvé, vous avez trouvé l'endroit qui vous correspondait en fait, hein, à vos valeurs, vos centres d'intérêt. Alors, on va parler donc du coup de cette société de Bourdin, parce qu'on a dit plusieurs fois. Alors, je pense qu'il y a quand même pas mal de Dacquois qui ont entendu parler, qui le connaissent. C'est un nom qu'on retrouve, moi, c'est un nom que je retrouve au fil des fois de mes invités, de mes émissions, de mes préparations, de recherche, documentation. C'est un nom qu'on peut retrouver aussi sur des ouvrages, sur des livres. Voilà, donc c'est 150 ans. Ça paraît toujours étonnant, parce que 150, ça nous ramène à 1876.
Oui.
Alors, mais qu'est-ce qui leur a pris à ces gens-là, à cette époque-là?
Alors, en fait, oui, la Société Bourdin a été créée le 25 janvier 1876 par un groupe de 20 personnes qui étaient essentiellement dacquois, mais aussi d'autres encablures autour de Dax et même d'autres horizons, même extra-landais. Hein, c'est souvent des instituteurs qui avaient été mutés dans les Landes. Vous avez une grande famille dacquoise qui ont participé à cette création. Mais on oublie souvent qu'il y a eu tout un terreau autour de cela, hein, parce que ça fait, ce n'est pas une génération spontanée, hein, c'est pas créé ex nihilo, hein, il y a toute une tradition qui remonte au XVIIIe siècle, notamment avec les Jacques-François de Bordadoro, qui était naturaliste et géologue, côté de Sauniac et Cambran. Vous avez Léon Dufour, plutôt de Saint-Sevé, Gratteloup également, entre Dax et Bordeaux, lui. Donc, vous avez tous ces savants des Lumières qui ont déjà travaillé sur notre terroir landais. Et donc, ces membres créateurs de la Société de Bourdin ont voulu, en instituant cette société savante, reprendre et perpétuer et continuer les travaux de leurs prédécesseurs, finalement, qui s'intéressaient plus aux sciences naturelles, à l'archéologie, qu'à l'histoire. Hein, l'histoire, est finalement, le premier article, par exemple, dans le bulletin, n'arrive qu'un an après la création. Il faut attendre fin 19e, début 20e pour que l'histoire devienne la matière prépondérante à Société de Bourdin et qu'elle n'a plus quitté depuis, même si du moins, à titre personnel, j'essaye quand même de garder cette pluridisciplinarité au sein de la Société de Bourdin.
Oui, tout à fait.
Parce que, justement, il n'y a pas que l'histoire, même, voilà. Même si je suis historien de formation, j'essaye quand même de garder cette diversité des connaissances.
De toute façon, vous affichez un goût dans votre logo et dans votre image pour les sciences, les arts et les lettres. Hein.
Oui, alors en fait, j'ai remis sur le logo en 2022 ce qui était en fait depuis quasiment le début. Hein, c'était effectivement, c'est une nomenclature numérique, enfin générique, pardon, sciences, lettres et arts. Beaucoup de sociétés à vente ont ce sigle. Donc, j'ai voulu remettre ce sigle qui ramène aux origines, hein, finalement, de ce qu'est une société savante, qui s'inscrit dans les Lumières. Mais même, on peut remonter à la Renaissance avec les humanités, l'humanisme. Tout cela.
C'est ça, oui, c'est une période avec des gens, des humanistes qui faisaient, qu'ils étaient, pour nous, ils nous paraissent, comment dire, multidisciplinaires. Bon, à l'époque, c'était naturel, c'était pas des blocs séparés, c'était un tout, c'était les arts, les lettres, ils étaient mis par la curiosité, un esprit scientifique aussi, une certaine une capacité quand même à être un peu critique par rapport aux choses, à vraiment réfléchir, et tous ces gens-là, c'est vrai que vous n'êtes pas la seule, d'ailleurs, je suppose qu'à votre époque, en France, et même dans le monde, il y a eu d'autres sociétés qui ont été créées avec les mêmes objectifs.
Oui, bien sûr. Hein, les sociétés savantes, il y a eu plusieurs vagues de création au XVIIIe siècle. D'ailleurs, on parlait plus d'académie, les sociétés savantes qui perdurent encore aujourd'hui et qui sont nées sous l'ancien régime peuvent avoir le nom d'académie et peuvent continuer à porter ce nom. Étant celles qui sont nées après, à partir de la Révolution jusqu'à nos jours, portent plutôt le nom de société, mais c'est pas forcément obligatoire. Oui, il y a eu énormément de sociétés savantes qui ont été créées, mais qui ont aussi périclité. Oui. Alors dans les Landes, effectivement, il y en a. Nous sommes les seuls. On n'a pas été pour autant les pionniers. Hein, où il y a eu d'abord une société d'agriculture qui a été créée à Mont-de-Marsan sous le directoire, qui a été plusieurs fois recréée, reconstituée par le préfet. Puis vous aviez aussi une société encore à Mont-de-Marsan sous le Second Empire. Malheureusement, elle également, elle a périclité avec la chute du Second Empire parce qu'elle était beaucoup trop liée au régime déchu. Et donc, c'est trouvé que la société savante, une autre société savante s'est créée à Dax, là aussi, qui reprenait finalement la suite de ses prédécesseurs. Et donc, effectivement, oui, cette Borda est la seule dans les Landes à pouvoir, on va dire, se revendiquer, je sais pas, un grand mot, mais société savante, mais en tout cas dans cette filiation des Lumières. Mais vous en avez d'autres dans la région, vous en avez à Bayeuse, vous en avez à Pau, à Bordeaux et en Gironde, vous en avez beaucoup d'ailleurs, beaucoup trop, puisqu'elles s'annulent entre elles finalement. Vous en avez à Agen, enfin, vous en avez partout en France, minimum vous en avez une par département. Mais en général, c'est ce qui fait la particularité de cette Borda, c'est qu'en général c'est dans la cité-préfecture. Bon, ici nous ne sommes pas dans une préfecture, mais une sous-préfecture, et pendant un certain temps, les Landes étaient à partager cette particularité avec les Ardennes et Corse du Sud. Alors ce n'est plus le cas aujourd'hui, les Landes restent le seul département dans cette situation.
Je sais que c'est un sujet délicat, surtout quand notre invité est d'origine de Mont-de-Marsan, donc on ne remettra pas ça sur le tapis, mais c'est vrai que c'est peut-être un sujet de discussion au comptoir le soir des fois.
Oui, après moi, je suis aussi originaire de Mont-de-Marsan, j'habite pas loin aussi, donc... pas de souci.
Mais c'est vrai, alors vous qui êtes historien, est-ce que vous avez testé la thèse disant que la raison pour laquelle c'est Mont-de-Marsan, on en avait parlé, a eu la place plutôt que Dax pour la préfecture, c'est parce qu'ils auraient fait une petite embuscade sur le chemin pour la réclamer à Paris et qu'ils auraient mis une petite rouste aux Dacois et que du coup c'était les seuls à avoir atteint l'objectif. Je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à ça, vous.
Ah, mais oui, mais alors non, cette histoire c'est la pure légende, c'est la pure légende de clocher entre Montois et Dacois. Non, en fait, ça remonte à la création donc des départements sous la Révolution en 1790. Effectivement, il y a eu des délégués Montois, Dacois, mais vous avez aussi Tarusat, Saint-Séverin, qui sont à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale avait demandé à ce que les différents délégués de différents parties de la Guyenne et Gascogne soient divisés en 5 départements. Pas le choix, il fallait faire 5 départements, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a des départements assez gigantesques, parce que je rappelle que le département des Landes est le deuxième département métropolitain en termes de superficie après la Gironde. Donc le découpage assez d'ailleurs chaotique pour les Landes. Donc à un moment donné, oui, c'est posé la question une fois que les limites ont été constituées, le choix du chef-lieu, effectivement. Il y avait le choix donc entre Mont-de-Marsan, Dax, Tartas et Saint-Sever. Alors les dernières Air-sur-Adour a été vite mis de côté puisque son côté périphérique finalement dans les Landes, même si c'était un siège des évêchés, périphérique parce qu'il fallait que le chef-lieu soit une journée de cheval à peu près à chaque distance du département. Et donc, il s'est trouvé donc finalement le choix entre Mont-de-Marsan et Dax. Et les Montois, peut-être un petit peu plus rusés, on va dire, plus malins, dans le sens où ils s'étaient mis d'accord, on dit OK, on va faire la règle de l'alternat entre les deux cités, ce qui s'est passé dans d'autres départements justement il y avait un souci de choix de chef-lieu. Et donc, les Montois disent on va commencer l'alternat. Et après, 6 mois après ou 1 an après, ça sera autour de Dax.
D'accord.
Bon, il s'est trouvé que l'alternat ne s'est jamais fait parce que ça aurait été trop compliqué de déménager tous les services de l'État, même si il est vrai que, objectivement parlant, Dax, qui était siège d'évêché, avait toutes les structures pour pouvoir accueillir les services de l'État.
Oui, d'accord.
Donc, Arcmont-de-Marsan était un petit peu dépourvu de ce côté-là.
Et oui. Donc, du coup, bah voilà, très bien. Merci pour cette. Mais après, l'autre histoire est sympa aussi.
Oui, tout à fait.
Faut pas confondre l'histoire et les histoires. Hein.
C'est ça.
Il y a une petite nuance. Allez, on va faire une première petite pause de la musique. On retrouve notre invité ensuite. Et voilà, nous retrouvons notre invité. Donc, on est en train de parler de. On a parlé pas mal d'histoires, évidemment. Là, on peut pas éviter ce sujet aujourd'hui. C'est. Oui, alors Borda, le nom, parce que c'est un nom qu'on entend à Dax quand même. Il y a un musée. Je vois qu'il y a deux Borda aussi qui ont été à l'initiation de cette idée. C'est un leur hommage. Ils faisaient partie des membres fondateurs. Voilà, ils étaient cousins, je crois.
Oui, tout à fait. Effectivement, et vous avez bien l'importance de le rappeler. Effectivement, quand les 20 membres fondateurs ont créé la société de Borda en 1976. Et ils ont donné le nom de Borda justement parce que il y avait ces deux cousins, donc Jacques-François de Borda d'Oro, donc j'ai dit ancien magistrat qui est devenu naturaliste et géologue, qui a plutôt mené une carrière locale, je vais dire, même s'il était, il avait des correspondants prestigieux de l'Académie des sciences, notamment d'Alembert. Mmh. Et son cousin, qui est beaucoup plus connu, hein, qui est le chevalier Charles de Borda, qui était donc officier de marine et aussi grand scientifique, hein, qui a fait plusieurs inventions, dans le cercle de réflexion, hein, qui est sur le logo de notre association, qui a fait aussi un système de vote pondéré, hein, qui est utilisé aujourd'hui pour l'Eurovision. Mmh. Il a aussi son nom, un cratère sur la Lune, un astéroïde. Mmh. Il a beaucoup fait aussi pour la marine française. Hein, qui fête ces années ses 400 ans d'existence. Et il a surtout également participé sous la Révolution à la commission qui a institué le maître étalon.
Hein, donc, le fameux en platine iridiée.
Oui. Donc effectivement, quand vous êtes à Dax, vous ne pouvez pas échapper dans la nomenclature, la toponymie, le nom de Borda. Oui. Parce que la famille de Borda était originaire de Dax et des environs. Hein, donc c'était une famille très importante de Dax.
Oui. Alors il y a un lien aussi entre le musée, hein, donc j'ai reçu le conservateur, et votre société aussi. Elle a administré ce musée pendant une certaine période.
Tout à fait, par la force des choses. En 1879, la société de Borda avait tenté, entre 76 et 79, la société de Borda avait tenté de faire un musée associatif. Elle ne va pas réussir pour des raisons matérielles. Et elle va léguer ses collections au musée municipal, au musée de Borda, qui existe depuis 1807. Hein, la municipalité, à l'époque, avait racheté le cabinet d'histoire naturelle de Jacques-François de Borda d'Oro. Et donc, la société de Borda va léguer au musée en 1879 et qui va, on va dire, participer à sa conservation avec un conservateur à l'époque qui s'appelait Alexandre Duverger. Ce conservateur va disparaître en 1900. Son successeur va démissionner en 1911. Et à partir de 1911, c'est la société de Borda qui va gérer totalement le musée jusqu'en 1978.
Oui,
donc, il était peu commun qu'une société savante gère un musée municipal.
Alors, oui.
On a l'exemple, la société savante de Bayonne avec le musée basque et de la tradition bayonnaise, du moins c'était le nom qu'il portait à l'époque, qui, pareil, a été à l'origine de ce musée avant de pouvoir se décharger de sa conservation dans les années 30. Donc cette Borda, ça a été presque un siècle finalement de conservation éclairée, mais effectivement valait mieux au moment donné que des professionnels puissent reprendre pour ça, parce que ce n'est pas la mission d'une société savante gérée par des bénévoles, je le rappelle.
Oui, c'est vrai. Alors vous avez toujours beaucoup de documentation, alors des ouvrages, etc., des cartes postales, enfin il y a pas mal de choses, et je suppose qu'aussi pendant une époque des objets eux-mêmes ont été accumulés en relation avec le patrimoine, l'histoire, et ça évidemment ça finit au musée, parce que vous n'avez pas vocation à conserver des objets de patrimoine, si ce n'est des ouvrages.
Tout à fait. Dans le legs de 1879, il est très clair que tout ce qui était... La société Borda a participé à l'enrichissement des collections du musée, tout ce qui est objets, tableaux, statues exactement. Mais par contre, la société Borda a gardé tout ce qui était archives et bibliothèque, mais aussi cartes postales et photos. Donc effectivement, depuis, nous avons accumulé un certain nombre de richesses. Par exemple, en termes de volume, la bibliothèque de Borda, c'est à peu près 14 000 volumes, ce qui fait sur les Landes et l'Aquitaine, ce qui fait d'elle la deuxième des départements après celle des archives départementales.
Oui, voilà, c'est pas mal.
C'est pas mal en termes de richesse, effectivement. Les archives, également, elles sont en cours de finition d'inventaire. On a par exemple 900 pièces isolées, donc c'est 900 dossiers, on a une vingtaine de fonds constitués, et donc ces inventaires, on commence petit à petit à être sur notre site internet, comme le catalogue de notre bibliothèque, qui est constamment mis à jour. Nous essayons justement de diffuser un maximum de ce que nous possédons pour que chercheurs, amateurs, curieux puissent savoir ce que nous avons et surtout préparer leur potentielle recherche chez nous.
Oui, bien sûr. Il ne suffit pas de thésauriser, il faut partager parce que sinon, faire bénéficier au plus grand nombre la connaissance, c'est votre objectif. Eh bien, on va faire déjà une deuxième pause parce que c'est le moment d'écouter un petit peu de musique et le flash info local. Et on retrouve ensuite notre invité. Nous voilà de retour. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de ces archives que vous avez conservées. Alors, bien sûr, il y a cette question de l'archivage, etc. C'est important, hein, parce que voilà, il y a des informations historiques, etc. Du patrimoine qui peut disparaître. On a parlé avec les archives départementales. Alors, c'est vrai que moi, instinctivement, je pense aux archives départementales. Vous parlez de toutes les archives que vous avez. J'allais dire que vous êtes un peu complémentaire sur le territoire. Qu'est-ce que vous diriez-vous ?
Oui, on peut être complémentaire sur certains sujets. Alors, on a, par la force des choses, on a plus de choses sur Dax que le reste. Même si on a pas mal de choses sur les Landes, mais effectivement, du fait de l'histoire, on a beaucoup de choses sur Dax. Pour la presse, par exemple, et ça sera peut-être quelque chose à travailler avec les archives départementales, pour la presse, nous, on est essentiellement dacquoises, et les collections conservées aux archives départementales, bon, on a beaucoup moins, et donc peut-être des pistes de partenariat pour l'avenir, de travail avec eux, pour numériser cette presse.
Mais oui, voilà.
Par exemple, pour nous, on va décider dans les prochains mois ce que nous allons faire à ce sujet, quelles archives on va mettre en avant, parce qu'on ne pourra pas tout numériser, ça ce n'est pas possible. Hein. Nous n'avons pas les moyens et les ressources d'un dépôt d'archives.
Oui.
On va voir ça dans les prochains mois, faire une sélection de documents qui pourraient être très intéressants à mettre sur notre site internet. Donc la question reste ouverte, pour l'instant je ne vais pas dire plus puisque nous n'avons pas encore débattu à ce sujet en détail du moins.
Bien sûr, oui. Alors justement votre site internet il est fourni. Hein, heureusement c'est vrai qu'il y a des choses qui sont numérisées ici. Alors vous avez un bulletin trimestriel hein, qui existe depuis 150 ans. Hein, et on peut trouver quelques. Moi j'ai consulté quelques extraits. Dessus j'étais un peu happé par le. Ben voilà, moi j'étais tombé. Alors il y a le choix. J'ai regardé les premiers aussi pour voir. Et puis là j'ai regardé, c'était le 1er janvier. Le 1er janvier 1904, et donc il y a Monsieur Saint-Jour dont les travaux sont examinés parce qu'il a fait un travail sur étangs et dunes du bassin de Souston. Donc du coup, on voit que les gens en discutent, etc. On imagine un peu la scène. Voilà, et donc ça va être assez passionnant. On pourrait se perdre des heures à les consulter, ces bulletins.
Oui, c'est une richesse, et c'est pas pour rien que le bulletin est appelé, enfin surnommé l'encyclopédie vivante des Landes. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup de savoir hein, qui sont sur le bulletin. Et je dis toujours aux potentiels, aux auteurs, je dis, moi, on vous offre l'immortalité du bulletin.
Ah, oui.
Donc vos écrits seront conservés puis plus tard numérisés, puisque vous pouvez retrouver notre bulletin numérisé sur Gallica, donc le site de la Bibliothèque nationale de France, pour les années 1876 jusqu'en 1965. Oui. Après, il y a une question de droit d'auteur à ce sujet, donc pour l'instant, on reste à 65, mais dans les années à venir, quand une prochaine vague de numérisation de la BNF, on pourra accentuer les numéros disponibles en ligne.
Ouais, c'est vrai que c'est un lourd travail, la numérisation. Hein, ça, c'est vrai que, mais c'est à la fois un outil d'archivage, c'est-à-dire sauvegarder quelque chose de manière numérique. On peut le graver ailleurs, que sais-je, on peut l'envoyer sur la Lune. Enfin, voilà, et aussi de partage. Ouais, parce que c'est votre sacerdoce aussi, c'est voilà, cette connaissance, ce savoir, cette information, mais c'est la partager, sinon ça n'a pas de sens.
Tout à fait, oui. Une des principales missions de cette Borda, c'était la diffusion des savoirs, le partager, le faire connaître. Ce n'est pas thésauriser, tout cacher, absolument pas. Ce n'est pas notre but. Hein. Le but, vraiment, hein, c'est de faire mieux connaître notre département, ses richesses. Hein, qu'elle soit archivistique, que ça soit patrimonial, que ça soit tradition, tout ce qui est ethnographique. Enfin, il y a énormément de choses hein, à faire, à connaître. Hein. On est loin de l'image d'Épinal, hein, du désert landais que nous a peint le 19e siècle et même les siècles précédents.
Alors, moi, ça fait penser un petit peu, alors c'est une référence personnelle, j'imagine, les fondateurs à cette époque-là. Moi, je suis un grand fan de Howard Philip Lovecraft, un écrivain fantastique, on va dire, qui est de Providence. Et souvent, ces héros étaient des gens issus un petit peu de ce genre d'endroit, un petit peu dans une société savante, avec les gens un petit peu dilettantes, qui avaient des biens, qui faisaient ça un petit peu, voilà, et qui partaient dans des aventures, bon, qui finissaient quasiment systématiquement mal, hein, c'est assez horrifique, hein, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, j'ai un peu cette image-là de ces gens-là, de ces descriptions, un peu à la Indiana Jones, j'allais dire, presque aussi, l'image d'Épinal un peu.
Oui, après, on n'a pas aventurieux aussi autant que Indiana Jones, hein.
Oui.
Mais on est peut-être un peu plus posé, mais oui, effectivement, on a peut avoir cette image un peu ancienne, un peu savante. Alors, savante ne veut pas dire sachante, hein, savante, hein, vraiment, c'est quelque chose d'un savoir pluridisciplinaire qui remonte, je l'ai dit tout à l'heure, ce soit jusqu'à la Renaissance. Hein. Donc oui, on n'est pas Indiana Jones, mais en tout cas, on essaye dans notre mission de transmettre.
Bien sûr. Alors, la bibliothèque, eh bien, elle est ouverte au public. Hein, le mercredi, le vendredi, de 14h à 17h. Donc les gens peuvent venir, ceux qui n'ont pas encore découvert cet endroit. Et donc vous avez fêté vos 150e, votre 150e anniversaire. Hein. Vous avez aussi à ce titre sorti un ouvrage commémoratif. Alors ça fait partie aussi des l'ouvrage, et puis vous avez une médaille aussi, etc. Mais donc en tant qu'association, évidemment, à un moment donné, il y a toujours une question qu'on aborde, c'est les moyens financiers. Donc vous fonctionnez comment et de quoi vous avez besoin? C'est l'occasion, tant que vous êtes là, d'en parler.
Tout à fait. Donc, nous sommes association de loi de 1901. Nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 1980, donc ce qui permet de recevoir des dons et aussi d'émettre des reçus fiscaux.
C'est
ce qui est très intéressant pour ceux qui veulent cotiser. Alors, la majorité de nos revenus sont issus des cotisations. Actuellement, nous avons 700 adhérents, donc ce qui est pas mal. Et à côté de cela, nous avons essayé de diversifier nos sources de revenus, parce qu'il y a quand même un coût de fonctionnement. Nous avons une secrétaire salariée qui fait fonctionner au quotidien notre association et qui est un poste indispensable pour la faire fonctionner. Et depuis 2009, nous avons ce qu'on appelle un pôle édition, donc une maison d'édition associative, où nous avons édité une cinquantaine d'ouvrages. Et l'un des derniers, vous l'avez cité, c'est notre livre commémoratif, le livre anniversaire, qui... j'ai voulu donner, puisque c'est moi qui m'en suis occupé, voulu permettre de faire mieux connaître Tête Borda, tout en mettant en valeur nos fonds iconographiques, ou nos fonds archivistiques, vraiment pour montrer la richesse de nos contenus et surtout connaître mieux l'histoire de Tête Borda, notamment celle des origines, qui était beaucoup moins connue, même si dans le bulletin il y a eu des articles à ce sujet sur son histoire. Les origines étaient mal connues, ou au moins on a mal cherché. Et j'ai essayé de remettre en perspective, finalement, sur ces 150 ans, que Tête Borda a été pionnière dans énormément de domaines. Par exemple, elle a participé aux essais de téléphonie dès 1878. C'est quasiment contemporain de la création d'un téléphone attribué à Alexander Graham Bell. Donc, vous avez le tourisme, le développement du tourisme. Vous avez le premier syndicat d'initiative de Dax et du département des Landes, créé dans les années 20, si je ne dis plus de bêtises. Et puis, surtout, avec la société française qui va muter après la Libération, une société de masse, société de tourisme de masse, pardon. Et donc, dans les années 50, nous avons plusieurs présidents, le docteur Apparidissère, vous avez Fernand Touvignon, qui vont s'intéresser énormément au tourisme, parce que notamment le premier était investi dans le syndicat d'initiative, dont il était secrétaire général. Et donc, ils vont participer à promouvoir la société de Borda à une échelle assez importante, qui va atteindre jusqu'à 2000 adhérents, et va promouvoir le tourisme landais, notamment faire des excursions à travers le département, à travers donc à travers le département, et surtout va faire une sorte de guide touristique à travers les conférences, les interventions qui sont données dans ces excursions, qui vont servir pour les différentes mairies qui vont s'y intéresser et qui vont créer leur propre syndicat initiative.
Et aujourd'hui, ils sont appelés promouvoir
au profit du tourisme.
Oui, oui.
Donc tout cela fait partie donc de ce qu'a fait la société de Bordin en tant que pionnière, mais vous avez également tout ce qui est documentation pédagogique pour les instituteurs, qui a été pareil, toute cette documentation a été faite dans les années 70-80, donc le service des archives départementales et un service pédagogique. Donc finalement, Stel Borda a souvent lancé l'idée, a participé avant de s'effacer, puisque des structures professionnelles se sont créées et ont poursuivi cette mission.
Alors vous intervenez aussi, vous êtes en lien forcément avec l'éducation nationale, enfin en tout cas les établissements scolaires, avec la transmission, les jeunes, etc. Vous avez des partenariats particuliers avec des établissements et d'autres partenaires d'ailleurs.
Là, nous avons un partenariat avec le lycée de Borda, puisque cette année anniversaire, nous avons fait une exposition début d'année dans le hall de la ville de Dax, d'hôtel de ville de Dax, sur la ville de Dax par les collections de la société de Borda, qui va partir logiquement au lycée de Borda, où il va y avoir des petites interventions qui ont été faites en marge de cette exposition. Donc le but de cette exposition, à la fois scientifique mais aussi pédagogique, voilà, c'est de montrer aux collégiens, aux lycéens, finalement le patrimoine d'Aqua, et puis nous faire réfléchir peut-être à l'avenir sur d'autres expositions à l'attention des scolaires.
Mais, de toute façon, on en parlait hors antenne avec notre invité, c'est que moi, en tant qu'animateur, moi, j'ai constaté à quel point les gens qui nous écoutent, etc., ils sont friands de l'histoire locale, du patrimoine, de la culture. Vraiment, les gens ont vraiment envie de connaître l'histoire des lieux qu'ils habitent. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment perceptible quand on discute avec les gens et qu'on regarde les statistiques aussi sur les sites internet. On voit que ça intéresse vraiment les gens, ça, c'est sûr.
Oui, les gens sont friands, surtout curieux de leur histoire, de leurs racines, que ce soit le Landais qui est là depuis plusieurs générations, ou le nouvel arrivant, le nouvel arrivant qui souhaite connaître son département d'adoption, s'intégrer dans la communauté locale, s'intéresse naturellement pour mieux connaître. Donc l'histoire est une passion, pas que landaise, passion française, connaître son histoire, de pouvoir que ce soit les bons et les mauvais côtés, pour la regarder en face et de se l'imprégner.
Tout à fait. C'est vrai qu'hier, on a parlé de devoir de mémoire sur le camp de Buglos avec notre invité, qui est passé tout à l'heure, m'a amené le livre qu'ils ont édité. Et dessus, qu'est-ce qui a marqué? Il y a Borda qui a marqué dessus.
Oui, parce
comme par hasard.
Édité il y a quelques années, oui.
Et oui, voilà. Comme quoi. Très bien, on va faire une dernière pause et on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission. Et voilà, c'est reparti pour la dernière partie. Alors, on a écouté Les Landes, c'est un morceau que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant, voilà, de Lighter. Voilà, parce que c'est vrai que vous êtes consacré quand même sur globalement plutôt Les Landes. Vous avez un rayonnement naturel, mais c'est vrai que c'est plutôt Les Landes. Alors, on va parler aussi un petit peu peut-être actualité et projet et besoin, parce qu'on a parlé tout à l'heure de comment vous fonctionnez financièrement, etc. Vous avez besoin de numériser, enfin, il y a plein de choses et tout ça. Vous avez besoin de mécènes.
Oui, tout à fait. Cette année anniversaire, nous avons lancé une campagne de mécénat auprès de nos sociétaires, mais également aussi auprès du grand public, pour justement continuer nos missions, pouvoir les perpétuer, notamment la numérisation, mais pas que, les services de médiation, les expositions, et puis surtout notre fonctionnement, qui deviennent d'année en année avec l'inflation, plus coûteux, on avait un bulletin édité. Enfin, voilà, donc nous avons lancé cette année campagne de mécénat pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises locales qui font vivre notre département, et qui donc déjà un certain nombre d'entreprises nous ont rejoints, nous accompagnent cette année. Donc vous avez la possibilité de vous documenter sur notre site internet, vous pouvez voir l'onglet mécénat particulier ou entreprise, et que dans les deux cas, comme nous sommes reconnus d'utilité publique, vous avez des réductions fiscales sont à la clé, qui sont avantageuses. Par exemple, si je prends une somme 100 euros, en fait, vous ne payez que 33 euros sur votre...
Oui.
suffit d'impôts.
Ouais,
donc,
c'est pas mal.
Donc oui, c'est quelque chose d'attrayant. Mm-hmm. Donc si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter. Voilà, et, on vous répondra avec grand plaisir.
Il y aura bien entendu le lien adéquat avec le podcast. Et en termes de projet, en projection un petit peu vers l'avenir, le futur, qu'est-ce que vous voyez ?
Alors, chaque mois, nous organisons une manifestation, des fois deux, dans le département, que ce soit à Dax ou ailleurs. À la rentrée, nous serons à Tétieux, j'ai plus la date en tête, mais c'est le 24 ou le 26...
Septembre.
Voilà, c'est un samedi, donc à Tétieux, demi-journée, hein, autour de Tétieux, parce qu'en général, quand nous allons dans une ville ou un village, c'est en rapport avec le village traversé, ou du moins avec les environs. Mmh. Puis, le 3 octobre, nous serons à Dax pour une conférence sur la marine de Louis XVI.
À la maison de la Barthe. Hein.
Ce sera l'occasion de parler du chevalier de Borda. Mmh. Le 10 octobre, là, ça sera un grand rendez-vous, une journée d'études pluridisciplinaires en partenariat avec les archives départementales sur l'état de la recherche dans les Landes depuis le début du XXIe siècle. Hein, nous avons 8 intervenants sur des sujets tout à fait divers. Il n'y a pas que l'histoire. Nous avons de la toponymie, nous avons de la géographie historique, nous avons archéologie, paléontographie, généalogie, les archives. Voilà, vous avez pas mal de choses. Nous avons au mois de novembre pareil, une autre manifestation faisant en partenariat avec les amis de la chapelle d'Argelouze au château de Fonda à Saint-Justin. Donc ça sera question des relations franco-russes mais en rapport avec le sud-ouest. Puis au mois de décembre, pas encore tout à fait finalisé, mais nous serons probablement à Cabreton. Et puis l'année prochaine, on aura un gros congrès au mois d'octobre, puisque nous dépendons de la Fédération historique du Sud-Ouest qui regroupe grosso modo les sociétés savantes de la région. Et donc le congrès tourne chaque année. Et donc pour 2017, ça sera à la charge de la société de Borda de l'organiser.
D'accord.
Donc de l'accueillir à Dax sur un week-end sur une thématique que nous avons choisie qui est tout ce qui est... Alors le titre n'est pas définitif, mais c'est une thématique sur la presse, l'édition... oui, presse édition, même si ce n'est pas encore tout à fait définitif, mais voilà, ça sera autour de ça. Et donc, bien sûr, toute personne pourra candidater pour communiquer à ce sujet, puisque derrière, il y aura un ouvrage comme à chaque fois.
Oui.
Voilà, donc voilà pour les gros événements. Sinon, ça sera nous tournerons dans le département comme à l'accoutumée. Mais le programme n'est pas encore finalisé.
Oui, et puis il y a la journée du patrimoine aussi,
bien
le
sûr.
19 septembre.
Bien sûr, chaque année, l'hôtel Saint-Martin d'Agès, 27 rue Cazade.
Parce que vous avez aussi un écrin.
Oui, tout à fait, nous avons un hôtel du XVIIe siècle, une partie du moins de l'hôtel où qui appartient, bien sûr, à la mairie de Dax, qui nous loge depuis 1963 et que nous faisons visiter effectivement lors des journées du patrimoine, hein, hôtel qui a accueilli notamment Anne d'Autriche et Mazarin.
Ah oui.
Donc, les personnages prestigieux se sont arrêtés à Dax en allant et en revenant du mariage de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz.
D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup, Gonzague. C'est clair que on aurait pu continuer encore quelques temps. Je pense qu'on aurait pu faire 2-3 heures, mais bon, moi j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver à ce micro ou même d'autres sociétaires.
Ben,
parce que voilà, c'est une chose qui intéresse. Qui intéresse les gens et moi y compris, hein, toute cette histoire de voilà, l'histoire, le patrimoine, la culture, les sciences et les arts, voilà, c'est tout ce qui c'est le sel de la vie, hein, voilà, et on en a besoin, voilà. Et merci beaucoup Gonzague, merci beaucoup, et puis je vous souhaite un bon week-end, merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir.